Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Celle qui voulait conduire le tram de Catherine Cuenca, édition Talent Haut. Ce roman nous plonge dans une histoire qui rejoint l'histoire avec un grand H, celle de la Grande Guerre 1914-1918. C'est une histoire de femmes qui se sont battues pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Des combats toujours difficiles et parfois remis en question. En 1916, à Lyon, Agnès réussit à se faire embaucher pour conduire le tramway. Poste exclusivement réservé aux hommes jusqu'à leur départ à la guerre. Ce poste qui lui permettra d'échapper à l'usine et lui fera découvrir indépendance et liberté. Mais le retour des soldats la fera renvoyer, retour à l'usine. Mais il lui permettra aussi de découvrir que d'autres femmes mènent le même combat et elle les rejoindra. Jusqu'au jour où elle disparaît mystérieusement. C'est sa nièce, Lucie, qui découvrira la vérité sur sa disparition 20 ans plus tard et fêtera en son nom la victoire du droit de vote accordé aux femmes. C'est un roman dense mais facile à lire qui s'adressera plutôt aux nos lecteurs à partir de 13 ans. Je vous lis le prologue. Lucie franchit au pas de course les derniers mètres qui la séparent de sa maison et s'engouffre dans le vestibule. Des trombes d'eau se déversent dans la rue. Son chapeau, sa veste et ses bas sont trempés. Mais elle demeure dans le vestibule, frappée par le silence des lieux en l'absence des garçons. Et par l'odeur qui s'insinue dans ses narines. Un relent de vieux bois, de cendres, de vinasse imprégnait la maison avant les travaux de rénovation. Depuis, les papiers peints ont été remplacés, les sols nettoyés, les vieux meubles débarrassés, et l'intérieur sent le neuf. Les garçons s'en plaignent d'ailleurs. 8 semaines après leur emménagement, les effluves de peinture fraîche leur piquent encore la gorge. Mais Lucie, elle, sent tout autre chose. À cet instant, dans la pénombre, il lui semble même que rien n'a changé depuis son enfance. Comme si son oncle Célestin allait surgir devant elle à moitié ivre. Elle s'approche de la cheminée du salon. Sur le manteau, trône une photographie de ses fils pris en 39 avant la guerre. Jacques avait 7 ans et Pierre 18 mois. À gauche, un portrait de leur père, Joseph, en uniforme de fantassin, celui qu'il portait quand il a été tué dans les Ardennes en juin 40. Et à droite, un cliché plus ancien, le seul que Luce ait trouvé, qui réunisse les personnes qui ont le plus compté pour elle dans sa jeunesse. Sa mère, Louise, décédée l'an dernier, et sa tante Agnès, l'épouse disparue de Célestin. Des visages doux et paisibles, aux grands yeux sombres et aux pommettes hautes. Elle glisse sa main entre les photographies pour attraper un petit coffret en bois. À l'intérieur, une minuscule poupée de chiffon, des lettres reliées par un ruban, des bleuets séchés dans une page du Progrès de Lyon. Elle pose délicatement les fleurs sur le manteau de la cheminée, déplie le papier. Elle l'a lu maintes fois, cet article, daté du 31 janvier 1920. Mais elle ne peut s'empêcher de le parcourir à nouveau, le cœur serré comme au premier jour. Disparition d'une suffragette à Saint-Potin. Le vélo de la disparue découvert dans la rivière, la piste d'un départ volontaire privilégié. Le vélo de Madame Agnès Meunier, porté disparu depuis 3 semaines, a été découvert dans leur nom. Les fouilles minutieuses menées par les gendarmes de Saint-Potin et de Lyon dans la rivière et la campagne environnante n'ont pas permis de retrouver la trace de la disparue. C'est son mari, Célestin Meunier, ancien soldat, blessé de la guerre, qui a déclaré sa disparition vers 23h ce soir-là. De retour du travail, M. Meunier n'avait pas trouvé sa femme chez lui. Constatant l'absence de son vélo, il s'était souvenu qu'elle devait assister à une réunion de suffragettes chez l'une de ses amies lyonnaises. S'inquiétant de ne pas voir sa femme revenir, M. Meunier s'est rendu chez Mme René qui lui a signalé que son épouse n'avait pas participé à la réunion. Très inquiet, M. Meunier s'est alors présenté au poste de police pour signaler la disparition de sa femme. M. Meunier, mari de la disparue, a été interrogé sur les habitudes de son épouse, ainsi que les voisins et l'entourage de celle-ci. Madame Meunier avait la réputation d'être une femme à forte tête qui délaissait son ménage et son époux, à qui elle faisait régulièrement des scènes au sujet des droits de la femme. Il a été établi que certains de ses vêtements s'étaient volatilisés, ainsi qu'une petite valise qu'elle avait coutume d'emporter en voyage. La police a aussitôt pensé que Madame Meunier avait quitté son foyer. La découverte du vélo de Madame Meunier dans les eaux de l'Ornon, à 3 km de son domicile, a relancé l'enquête. Mais la fouille de la rivière et la campagne n'a laissé aucune trace de la disparue. Il semble certain désormais que Madame Meunier agit de façon préméditée afin de changer de vie et qu'un ou plusieurs de ses complices l'y ont aidé. Quelqu'un l'attendait probablement sur la route de Givors pour l'emmener loin de Saint-Potin et de son mari désespéré. La police travaille toujours activement à rechercher la fugitive. Luce esquisse un sourire amer. Bien des années se sont écoulées depuis la publication de son article et sa tante n'a jamais reparu. Déjà porté sur la boisson, son oncle Célestin avait définitivement sombré dans l'alcool. Quelque temps plus tard, la police avait classé l'affaire Agnès Meunier. La coupure de journal à la main, Lucie s'approche de la fenêtre du salon. La pluie a cessé de tambouriner contre les vitres. Dehors, le ciel s'éclaircit. Un timide rayon de soleil balaye le jardin qui s'étend derrière la maison. Un carré d'herbes sauvages, l'arc d'une tonnelle, et tout au fond, un banc de pierre sous un tilleul centenaire. Les joues de Lucie se mouillent de larmes. « Je sais où tu es, ma chère tante, » murmure-t-elle. « Je l'ai toujours su. C'est pour te retrouver que je suis venue. »
L'ange disparu. C'est l'un des premiers albums de Max Ducos, paru en 2008 chez Sarbacane. Et depuis, l'auteur-illustrateur dont nous avons plusieurs fois parlé ici continue de nous enchanter en nous entraînant souvent dans des univers parallèles au charme énigmatique. Il aime faire surgir dans des situations réalistes des événements mystérieux qui ne déstabilisent pas le moins du monde ses jeunes héros. Généralement, ces enfants se précipitent sans hésiter longtemps dans l'aventure qui s'offre à eux. C'est le cas du petit Éloi, en sortie scolaire au musée des Beaux-Arts de sa ville. Assis à l'écart du groupe et convaincu qu'il va se laisser glisser dans un ennui sans fin, il sursaute en entendant une voix. « Petit garçon, j'ai besoin de ton aide !» dit une dame. « Mon petit ange est parti ce matin et j'ai peur pour lui. Il est si petit,
Il va se faire attraper par une sculpture et se retrouver changé en pierre. C'est déjà arrivé, paraît-il. S'il te plaît, aide-moi à le retrouver. » La dame avait l'air si désespérée qu'Éloi, sans même réfléchir, s'écria. « Ne pourrez plus, je vais le retrouver, votre petit ange. » La dame qui l'interpelle ainsi est la Vénus d'un tableau. Elle pleure à chaudes larmes au milieu de son lit. Le gardien du musée s'étant endormi, Éloi va chercher de l'aide ailleurs. Et quand il interroge le portrait d'un jeune homme, celui-ci le conseille. « Non, mon enfant, je n'ai pas vu d'ange, » répondit le petit portrait. « Mais si tu veux mon avis, il a dû entrer dans un tableau. »« Entrer dans un tableau? Mais comment est-ce possible ?»« Ah, c'est impossible, justement. Mais un ange qui sort d'un tableau, c'est impossible aussi. Va donc voir dans le paysage d'à côté. Il est tellement beau. Moi, c'est immédiatement dans celui-là que j'irais, hein, si je pouvais sortir d'ici. » « Comment dois-je faire ? » ?»« Ben, y a qu'un moyen. Tu prends ton élan et tu te jettes la tête la première dans le tableau. Et, « Et si ça ne marche pas ? Je vais abîmer le tableau, je vais aller en prison, puis avoir une très mauvaise note. »« Tu veux retrouver ton ange, oui ou non ? Alors écoute-moi bien. Quand on veut, on peut. Essaie, tu verras bien. » Donc, Éloi va plonger, tête la première, au milieu de la toile qui représente un paysage provençal et il se retrouve à plat ventre dans l'herbe, au pied de vendangeurs d'une autre époque qui, hélas, ne savent pas le renseigner. De tableau en tableau, il poursuit son enquête dans les galeries et s'entend à chaque fois répondre « Un ange ? Pas vu. Pas vu. » Jusqu'à ce qu'une jeune fille, parmi d'autres petits portraits, lui indique les étages. Au fil de sa quête dans les différentes galeries, le petit garçon rencontre des œuvres mondialement célèbres dont je vous épargne la liste, mais vous vous en doutez, l'intention de l'auteur est de pousser le lecteur à identifier un certain nombre de ces toiles de toutes époques, de tous styles. Un lecteur à partir de 8-9 ans, pourrait y satisfaire sa curiosité, à condition d'être accompagné dans cette balade fantastique, puisque le nom des peintres et des œuvres n'est jamais mentionné. Mais une aide existe en ligne, dans le site www.guichetdusavoir.org. Sur la couverture, on voyait Éloi évoluer dans un tableau de Mondrian. On le retrouve, ce tableau, dans une page intérieure. L'enfant escalade les cubes de couleurs à la recherche de l'ange disparu. Il brandit un filet à papillons, qui peut s'avérer bien utile. Il lui a été prêté par une dame, représentée avec ses enfants, dans une toile impressionniste qu'il vous reste à identifier. Mais alors qu'il est sur le point de l'attraper, Éloi voit s'envoler l'ange vers un grand tableau bleu, dans lequel il plonge, fasciné. Quand Éloi retrouva ses esprits, il flottait dans le bleu comme une plume au vent, aux côtés du petit ange, insouciant, qui semblait beaucoup s'amuser. Il n'y avait pas de sol, pas de mur, il n'y avait que du bleu. « Mais je pourrais jamais sortir de là !» pensa Éloi avec effroi. Il songea à ses parents, qui ne le retrouveraient plus, à sa classe, qui continuerait de travailler sans lui, et puis à la dame du tableau, qui ne retrouverait jamais son petit ange. Éloi ferma les yeux, sa gorge se serra. Seule une aide extérieure pourrait le sauver. Si vous êtes prêt à entrer dans ce rêve pour jouer le jeu, comme on dit, suivez le parcours peint par Max Ducos. Il sait si bien jouer avec les lumières, les cadrages, les effets de plongée, les angles de vue. Peintre avant tout, l'auteur se plaît à glisser dans ses images des techniques cinématographiques et il nous propose des mises en abîme dans cet album grand format captivant où mystère et drôlerie se côtoient.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.